On va passer à la communication d'Audrey sur la scène de chez Narcisse.
Alors, je voulais commencer ma présentation simplement en rappelant qu'il est finalement peu courant en sciences sociales d'avoir l'occasion de présenter des résultats de sa recherche aux personnes mêmes qui ont permis la production de ces résultats. Donc c'est avec beaucoup d'émotion moi, que j'avais envie de remercier les gens de chez Narcisse, donc Victor, Arthur, Léonie, Philippe, les habitués de chez Narcisse qui sont là aujourd'hui pour certains d'entre eux, et puis aussi évidemment Luc et Solveig hein, pour m'avoir permis de travailler sur ce beau terrain. Alors, la rumeur court, chez Narcisse serait la scène la plus chaude de France, d'après l'Ophophora, un endroit incontournable, d'après les shérifs, un lieu particulier, donc cette salle de concert, perdue en territoire vosgien, où il fait parfois 8 degrés au mois de mai. Donc, comme vous l'avez constaté, hein, il fait pas très chaud pour le moment. Donc, salle de concert et débit de boisson, l'entreprise familiale a su créer une ambiance qui lui est propre, une identité qui lui est propre. Et la question au départ de la recherche, selon une approche ethnographique, était de comprendre ce qui caractérisait chez Narcisse. Donc les différents entretiens réalisés avec des acteurs du lieu, avec des groupes qui venaient jouer ici, ainsi que les observations menées sur place depuis plus d'un an, m'ont permis de délimiter trois axes, dont l'imbrication fournit une identité à cette salle, donc les acteurs, le site, donc le lieu, et les temporalités. Donc dans un premier temps, l'idée, ce serait de montrer comment l'articulation de ces trois axes définit une scène narcissienne, et dans un second temps, à partir de cet exemple, de questionner plus largement le punk, alors pour le coup, non pas selon trois accords, mais selon trois temps. Alors, tout d'abord, une scène narcissienne, donc ce qu'on entend par scène, donc Fabien 1 l'a bien défini, ce sont des interactions entre, et des manières de faire entre des acteurs, un territoire et un style de musique. Et l'idée, c'est de montrer comment on va créer une identité narcissienne, donc à travers des acteurs, les groupes, le public, le site, donc à la fois le débit de boisson et la salle de concert, et le temps entre changement et permanence. Alors c'est d'abord une salle alternative, entre guillemets, puisque je ne vais pas reprendre l'historique de chez Narcisse, puisque Victor nous l'a bien fait tout à l'heure, il le fait beaucoup mieux que moi, mais simplement rappeler qu'au départ, donc, c'était Narcisse reprend l'entreprise familiale, donc maréchalerie, bistrot et pompe funèbre, et dont le slogan « on vous accompagne jusqu'au bout » témoigne déjà d'une certaine forme d'humour familial. Donc, en 1986, le cinéma devient salle de concert et aujourd'hui, la programmation est variée. Et si elle n'est pas toujours qualifiée de punk, les pratiques culturelles et musicales sont néanmoins situées du côté de l'underground, du non conventionnel. Alors, il y a une certaine forme de permanence qui est attendue par le public, puisque certains groupes reviennent régulièrement, parfois plusieurs fois par an. Ils sont plébiscités par le public. Et il y a cette idée que jouer chez Narcisse, c'est être à la maison. Et les musiciens, par exemple, remercient le public narcissien dans d'autres salles, quand on n'est pas chez Narcisse. Donc ça, c'est quand même assez, c'était assez fort. Et il en est de même pour les participants, puisque jouer ici, pour certains groupes, c'est jouer à la maison. Et l'Ophophora, notamment, parle de narcissiens d'adoption pour qualifier tous les gens qui ne sont pas du Val d'Ajol, mais qui viennent souvent chez Narcisse, renforçant cette idée d'une famille, finalement, qui s'agrandit. Alors, pour autant, il y a quand même la volonté de renouveler l'offre, de faire se transformer la salle. Et donc, des travaux sont régulièrement réalisés, donc vous le voyez, hein, pour agrandir la salle, même si, effectivement, il y a une volonté de garder ce qui fait l'identité de la salle dès le départ, donc les affiches que vous voyez ici, et certaines manières de faire, donc par exemple, la volonté de ne pas mettre de barrières, parce que ça ne marche pas. Et finalement, de se différencier aussi des salles de musique actuelles, parce que chez Narcisse, c'est une salle qui est considérée comme chaude, chaleureuse, etc. Donc je vous ai mis des extraits d'entretien. J'ai changé les noms des intervenants, mais voilà. Donc soit des groupes, soit des acteurs du lieu. Donc chez Narcisse, c'est aussi un bar de village. Donc c'est une structure qui s'ancre dans le Val d'Ajol. Et globalement, ce qui est exprimé, c'est un fort sentiment d'appartenance au Val d'Ajol, aux Vosges, même si les frontières ne sont pas forcément celles de la commune. C'est-à-dire qu'on peut être d'ici sans forcément habiter le Val d'Ajol. Hein. Les frontières sont un peu plus larges que ça. Et chez Narcisse, finalement, devient aussi un lieu central dans lequel se retrouvent les habitués du village. Et le café est notamment un lieu de sociabilité villageoise. Un lieu de loisirs aussi intergénérationnel, puisqu'on va retrouver les plus jeunes, notamment les lycéens, qui fréquentent le même espace de rencontre que celui de leurs parents, voire de leurs grands-parents. Donc chez Narcisse, c'est aussi un lieu collectif de rassemblement, donc entre les générations. Et on voit apparaître donc une continuité générationnelle, puisqu'un lien est fait avec le passé, que ce soit dans les décors du bar, par exemple, vous avez vu certainement sous les tables les affiches, les articles de journaux des groupes qui sont passés ici, ou les photographies des ancêtres des propriétaires actuels. Donc on est ici sur l'idée d'une mémoire familiale de l'entreprise et chez Narcisse parvient ainsi à allier une identité villageoise et une identité punk. Alors la salle, puisqu'on fait le lien entre le débit de boisson et la salle devient aussi fortement ancrée dans le temps villageois, notamment lors de la foire aux andouilles. Donc Victor vous en a parlé tout à l'heure. Donc l'andouille, c'est la spécialité culinaire du village. Et pendant cet événement-là, cette salle devient un lieu de restauration et un lieu pour la guinguette. Et donc, c'est aussi l'idée de s'adresser à d'autres générations et de continuer de s'inscrire dans le local. Donc, on trouve une double identité, hein, un double espace qui est à la fois villageois, donc ancré dans le temps du village, et un espace underground avec l'utilisation de la salle pour les concerts. Donc dans les discours, le bar et la salle sont indifférenciés. Donc chez Narcisse, c'est tout cela à la fois. L'un ne va pas sans l'autre. Et l'ancrage dans la vie locale associé aux concerts de musique est à articuler pour comprendre finalement cette dimension intergénérationnelle. Alors, entre changement et permanence, donc ce serait mon deuxième point finalement, l'exemple de chez Narcisse invite à questionner le rapport que le punk entretient au temps. Et si la vulgate punk repose sur l'illustration par trois accords de ce qui est nécessaire pour monter un groupe, comme l'ont rappelé Luc et Solveig tout à l'heure, le temps punk peut aussi, comme en écho, être appréhendé selon trois temps. Alors d'abord un temps festif. Les concerts sont des moments festifs qui se présentent comme des rituels, donc des rituels qui sont des ensembles de rites qui produisent des situations sociales particulières délimitées dans le temps, durant lesquelles des règles spécifiques s'appliquent. Donc, par exemple, les normes se mettent en place pour les pogos, on en a parlé tout à l'heure, etc. Et le temps présent, c'est celui de l'échange. Donc c'est un temps d'échange entre acteurs du lieu, qu'ils soient musiciens, publics, etc. Et c'est un temps qui va créer du lien social et de l'identification. C'est aussi, alors pour reprendre un vocabulaire plutôt de sociologue goffmanien interactionniste, mais c'est un temps qui crée des interactions et qui va créer un monde social particulier. Donc on a cette idée que qu'on va avoir des règles de pertinence et les pogos ici entre autres répondent à des normes et ce que les acteurs ont tendance à dire ici, on saute de la scène, sinon on ne saute pas parce que sinon c'est pas un vrai pogo. Donc le temps des concerts c'est un temps ludique. Le temps des concerts est un temps ludique, donc qui est régi par un cadre particulier, qui produit donc des interactions spécifiques. Le deuxième temps, c'est le temps de l'enfance, qui est fortement mis en avant dans les propos recueillis, dans cette idée qu'on va valoriser le monde enfantin et que du côté des musiciens, des groupes en tout cas rencontrés ici, jouer du punk, c'est une manière de rester de grands enfants, c'est une manière de rester jeune et de valoriser la jeunesse. Donc on retrouve sous-jacente à cette question la notion de l'éternité finalement et la pratique de la musique aurait tendance à symboliser l'éternelle jeunesse tout en prévenant du vieillissement. Donc je vous ai remis des extraits d'entretien. L'enfance est également comprise comme un monde possible en devenir, c'est-à-dire que se comprennent ainsi les interventions de certains groupes dans les écoles, puisque le punk s'adresse aussi aux jeunes, et c'est pas forcément une musique pour les vieux, et dans cette logique, on trouve aussi des groupes qui vont faire des albums pour enfants, donc pour présenter autre chose finalement que la soupe, je cite, qui est souvent proposée pour les plus jeunes. Et le dernier temps, c'est le temps du spleen, puisque ce temps de l'enfance est quand même un temps passé, révolu, qui n'existe plus. Nos sociétés sont tournées vers le futur. Donc on est dans une société qui regarde vers le futur plus que vers le passé. Et cet ordre de représentation du temps linéaire, finalement, est propre à nos modes de vie quotidiens. Et les acteurs rencontrés ici ont un discours qui oscille fréquemment entre passé et futur, temps de l'enfance, de l'idéal, et finalement un temps à venir qui est positionné du côté de l'incertitude. Alors entre nos futurs, yes futur, etc. Et d'abord, ce temps, il va faire écho à une sorte de spleen, hein, de spleen baudelairien, entre deux axes, entre l'idéal et la mélancolie, l'angoisse de l'existence à venir. Donc l'idée, ce serait de comprendre la nostalgie, finalement, qui est évoquée dans les souvenirs d'une époque révolue, avec cette idée qu'on a perdu un certain nombre de temps qu'on ne pourra pas retrouver. On retrouve d'ailleurs cette nostalgie dans les traces mémorielles véhiculées par la presse musicale, hein, sur laquelle on travaillait aussi Luc et Solveig. Alors, le temps du spleen, c'est aussi le temps qui s'articule avec le temps festif. Hein, donc c'est pour ça aussi qu'on va retrouver à certains concerts des crêtes, même s'il y en a beaucoup moins qu'à une certaine époque. On va retrouver certains codes hein, visuels, esthétiques du punk dans cette idée de retrouver finalement quelque chose qui n'est plus. Alors, le temps du spleen, c'est aussi un rapport entretenu à la mort, à la vieillesse, puisque des énoncés du type « on ne vit qu'une fois hein, » sont fréquemment dits par les groupes, par le public, etc. Et finalement, prendre part à un temps festif, c'est aussi une manière de conjurer la mort. Et ce n'est pas pour rien que chez Narcisse a été l'un des deux lieux qui ont accueilli l'hommage à Schulz, hein, donc suite au décès de celui-ci en 2014. Donc cette idée qu'il faut vivre le temps présent parce que l'avenir est incertain et le retour de groupes qui avaient arrêté, hein, les groupes qui reviennent, ça peut être aussi compris comme une manière de rattraper le temps perdu, de ne pas s'inscrire dans un âge avancé, hein, puisque finalement être sur scène, c'est une manière de rester jeune. D'ailleurs, la vieillesse est souvent stigmatisée et perçue comme quelque chose finalement, si on est vieux, on est con. Voilà. Alors, le temps du spleen, c'est aussi une dualité, puisque c'est pas si simple que ça, puisqu'on trouve aussi ces logiques du yes futur. Hein, donc, c'est aussi construire un temps à venir et finalement travailler pour les générations qui nous suivent. Alors, on retrouve ce principe aussi, le principe du DIY hein, dans les groupes et dans l'entreprise, que ce soit chez Narcisse ou aussi pour les publics, puisque les gens du Val d'Ajol, en tout cas ceux qui viennent ici, mettent en place cette logique du DIY dans leur manière de faire, dans leur manière d'être et dans leur loisir aussi. Assez fréquemment. Donc l'idée de la production domestique, que ce soit la bière, que ce soit la manière de faire par soi-même, c'est quelque chose aussi qui est très fort. Alors en conclusion, pour tenir le temps imparti, donc on est entre changement et permanence, puisque l'entreprise familiale initiée il y a plus de 120 ans se renouvelle, elle s'inscrit dans une mémoire longue, et le lieu expose un temps des générations aux côtés d'un temps punk. Et c'est pas pour rien si le premier festival de chez Narcisse s'intitule alors Le Pied Orange effectivement, mais avec pour sous-titre d'hier à aujourd'hui. Je pense que c'est aussi quelque chose de très fort sur ce lien entre changement et permanence. Donc passé, présent et futur s'entremêlent, ça crée des sortes de bulles temporelles qui permettent de penser le temps punk au Val d'Ajol et de comprendre finalement les paradoxes entre un temps présent festif, des représentations de l'enfance comme âge d'or et un futur incertain à changer avant qu'il n'arrive. Je vous remercie pour votre attention.
Merci Audrey. On va passer à Jérémy.